Le journal, Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. Hong Kong se prépare à un nouveau dimanche de manifestations que les opposants veulent massives et non violentes pour prouver leur détermination. Notre envoyé spécial Valérie Crova a rencontré l'une des principales figures du mouvement. Matteo Salvini cède à contre-cœur. Le ministre de l'Intérieur italien a finalement autorisé le débarquement de migrants mineurs non accompagnés du navire humanitaire Open Arms. Mais plus d'une centaine d'autres migrants sont toujours bloqués à bord du navire au large de Lampedusa. Il y a 75 ans, le dernier convoi de déportés partait du camp de Drancy vers Auschwitz. Une commémoration a eu lieu hier à Paris au mémorial de la Shoah. Marine Proté y était. Enfin, nous reviendrons sur cette étude parue cette semaine qui alerte sur la concentration de microplastiques dans la neige et ce partout sur la planète, y compris dans les montagnes françaises. Mais avant cela, direction la République démocratique du Congo qui peine toujours à enrayer l'épidémie d'Ebola. Le virus sévit à l'est du pays et a déjà fait plus de 1900 morts. Des progrès ont été réalisés dans les traitements, mais les équipes médicales sont encore confrontées à la réticence des familles de victimes, en particulier lorsqu'il s'agit d'enterrer les malades décédés de façon sécurisée pour éviter toute propagation du virus. En RDC, dans un centre de traitement, c'est un reportage de Patricia Huon.
Vous êtes prêts ? Des tenues jaunes de protection et des masques, une équipe de la Croix-Rouge se prépare à réaliser un prélèvement sur le corps d'un bébé de 2 jours qui vient de décéder.
Le nom du défunt et la date et l'heure à laquelle on va prélever.
Rien n'indique que l'enfant pourrait avoir été atteint du virus Ebola, mais avec l'épidémie qui sévit dans la ville de Beni, tous les décès sont considérés comme suspects. Pierrot Kinouli, employé par les équipes de riposte, est chargé de la tâche difficile d'informer les familles sur le processus.
Il y a des familles qui ne comprennent pas, mais quand il y a un membre de la famille comme la maman est là, qu'ils voient aussi ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que nous nous sommes habillés là-bas à public, vu que tout le monde voit, il n'y a pas quelque chose qu'on a caché dans nos habillements de protection.
Le prélèvement effectué sur le bébé est revenu négatif. Ce n'est pas le cas pour cette femme de 35 ans qu'on enterre aujourd'hui. Elle est morte après avoir contracté le virus Ebola. Des précautions doivent être prises pour l'enterrement.
Dans nos coutumes, quand la personne est morte, nous sommes habitués de les toucher, même de les laver, de les habiller. Mais avec Ebola, on ne touche pas. Si tu touches, ok. Tu peux suivre aussi ton proche. Parfois, nous nous faisons insulter par des familiers qui disent que nous sommes en train de tuer l'air. Et donc, nous sommes des hommes sans pitié. Et puis, donc, et là, il veut dire qu'il connaît là où nous habitons, il peut venir nous attaquer.
Malgré des efforts pour rendre ces enterrements dignes et plus humains, une prière en cercueil au motif imprimé de fleurs ne suffisent pas à compenser le traumatisme et parfois l'incompréhension pour les familles.
Un reportage de Patricia Huon. Un attentat kamikaze hier soir à Kaboul a fait au moins 63 morts et 182 blessés. C'était lors d'un mariage. L'attaque n'a pas encore été revendiquée et les talibans assurent ne pas en être à l'origine. Alors justement que la population afghane espère un accord rapide entre talibans et américains. À Hong Kong, c'est une nouvelle journée de mobilisation qui attend le mouvement pro-démocratie. Une grande manifestation est prévue aujourd'hui dans un parc du nord de l'île. Une manifestation qui ressemble à un test de la détermination des opposants qui ne cèdent rien depuis 2 mois et demi. Notre envoyé spécial Valérie Crova a rencontré l'un des piliers de ce mouvement. Il est né en 1997, l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et comme tous les jeunes de sa génération, il milite pour plus de liberté.
Joshua Wong est un jeune homme pressé et fatigué. Le nez sur son portable, il répond à des appels et envoie des messages. Joshua appartient à Demosisto, un groupe d'activistes qui se bat pour la démocratie et la liberté à Hong Kong. Il sera de la manifestation tout à l'heure.
Je pense qu'un demi-million de personnes se joindra au rassemblement pour montrer le pouvoir du peuple. C'est le moment pour que le monde garde un œil fixé sur Hong Kong.
Joshua est né en 1997, l'année de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. À l'image des milliers d'autres jeunes de sa génération, il veut pouvoir choisir ses dirigeants.
Nous demandons des élections libres. Nous espérons pouvoir voter pour élire notre gouvernement au lieu qu'il soit choisi par Pékin.
Joshua est déterminé à aller jusqu'au bout de son combat, quoi qu'il lui en coûte.
L'été du mécontentement va se poursuivre. En septembre, il y aura un boycott des cours à l'université. Et je pense qu'il y aura des manifestations monstres le 1er octobre, le jour de la fête nationale chinoise, pour défendre notre cause pour des élections libres et la démocratie.
Avant de nous quitter, Joshua a une demande spéciale à adresser aux autorités françaises. Car la chef de l'exécutif de Hong Kong a été élevée au rang d'officier de la Légion d'honneur en 2015, avant d'être nommée à son poste par Pékin.
Carol Lam,
Carrie Lam, avec sa réputation déplorable, a autorisé la police anti-émeute à réprimer le combat des gens pour leur liberté. Et cela viole les principes et valeurs du gouvernement français. Il est donc temps de révoquer cette mention honorifique.
Une pétition a été lancée, elle a déjà obtenu plus de 170 000 signatures.
Valérie Crova, envoyée spéciale de France Culture à Hong Kong. En Italie, Matteo Salvini a fini par céder. 27 mineurs non accompagnés ont débarqué hier de l'Open Arms, le bateau humanitaire bloqué au large de Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur a finalement écouté le Premier ministre italien Giuseppe Conte, cédant un peu de lest sur sa politique des ports fermés aux migrants. Mais le chef de la Ligue est bien décidé à ne pas se laisser faire dans une crise politique où tous les coups sont permis. Les précisions d'Antonino Gallofaro à Rome.
Le geste de Matteo Salvini, mais seulement pour les mineurs non accompagnés. Et un geste à contre-cœur. Dans la soirée déjà, le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite toujours au pouvoir, a affirmé sur un ton sarcastique que sur cette trentaine de personnes, 8 se sont déclarées majeures. Le ministre de l'Intérieur a cédé après les pressions répétées du Premier ministre. Giuseppe Conte, et par deux fois, lui a intimé de laisser descendre les mineurs. La tension entre les deux hommes s'est aussi étalée sur la place publique quand il y a 3 jours, le chef du gouvernement a indirectement demandé à son ministre de cesser de faire campagne électorale sur le dos des migrants. En accédant à la requête de son chef, Matteo Salvini a voulu démontrer sa collaboration loyale, comme il l'a affirmé en reprenant les mots de Giuseppe Conte, mais il n'a pas arrêté pour autant sa campagne électorale. Pour lui, ces mineurs sont des mineurs imaginaires, comme le sont les malades imaginaires sur le navire. Il sous-entend que les personnes sur l'Open Arms se portent bien. La situation à bord est insoutenable, répond pourtant l'ONG espagnole.
Antonino Gallofaro. Il y a 75 ans, le 17 août 1944, le dernier convoi de déportés partait du camp de Drancy. Surnommé l'antichambre de la mort, situé au nord-est de Paris, il a été le principal lieu d'internement avant la déportation vers Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. 9 déportés juifs sur 10 sont passés par ce camp où les conditions de vie étaient abominables. Hier matin, un hommage a été rendu aux membres de ce dernier convoi au mémorial de la Shoah à Paris. Marine Protet y était.
Pour accomplir son devoir de mémoire, Kéliane, 77 ans, est venue aujourd'hui. Son père fait partie des 76 000 juifs déportés de France. Il n'est pas monté à bord de ce convoi, mais pour elle, il était évident d'avoir une pensée pour tous ceux qui, comme lui, ne sont jamais revenus.
Il était important que nous soyons ici, réunis, pour se souvenir de tous ces gens, hein, de ses pères, de ses mères, de ses parents, hein, qui sont proches de nous, en fait. Hein. Mon père a été déporté en 1944. C'est un convoi numéro 73 qui a été dirigé dans les pays baltes. Une fois à l'arrivée, les gens ont été pratiquement massacrés assez rapidement.
Pour que ce massacre ne se reproduise jamais, Serge Klarsfeld tient à ce que ce genre de cérémonie ait lieu régulièrement. À 83 ans, le président de l'Association des fils et filles de déportés juifs de France se bat pour que ces noms ne tombent pas dans l'oubli.
On a milité partout pour les droits de l'homme, contre les répressions, contre les dictatures. C'est comme ça que le monde évolue. Il faut aussi des militants qui se battent pour les valeurs de liberté, de justice, etc.
Il espère que dans les générations à venir, il y aura encore des militants comme lui et ceux de son association, afin qu'ils continuent à énumérer tous ces noms et commémorer tous les anniversaires de la déportation.
Marine Protet. Le coût de la rentrée scolaire en hausse de presque 2% pour les étudiants en 2019. C'est la conclusion d'une étude publiée ce matin par le premier syndicat étudiant, la Fédération des associations générales étudiantes. Ce sont les frais de la vie courante qui augmentent le plus, d'après le syndicat, avec l'augmentation des loyers et des complémentaires santé. Du plastique dans la neige, des Alpes à l'Arctique. C'est ce que montre une étude publiée la semaine dernière par l'Institut allemand Alfred Wegener et l'Institut suisse de recherche sur la neige et les avalanches. Les scientifiques ont mesuré la concentration en microplastique de la neige à différents endroits du globe. Elle est élevée dans l'Arctique et encore plus dans les Alpes. Et ce n'est pas la première étude qui fait ce constat, Marion Gauthier.
Le 15 avril dernier, une étude scientifique française donnait déjà la concentration en microplastique de la neige des Pyrénées, concentration quasi équivalente à celle de zones urbaines comme Paris. Comment est-ce possible? Le plastique se dégrade en morceaux de plus en plus petits, parfois tellement petits qu'ils peuvent être transportés dans l'air que nous respirons avant d'être ramenés au sol par la pluie ou les chutes de neige. En fait, si la neige est polluée, c'est que l'atmosphère est polluée. Ce que la nouvelle étude montre, c'est la distance que ces microplastiques peuvent parcourir jusqu'à polluer des zones extrêmement éloignées de toute source de pollution, comme l'Arctique. Un constat qui inquiète, à défaut d'étonner les scientifiques. Pour commencer, ils réclament des recherches supplémentaires afin d'évaluer les risques pour l'homme de l'inhalation de ce plastique.
Marion Gauthier. Un mot de météo pour finir. 12 départements sont placés en vigilance orange par Météo France pour les orages. Une perturbation arrose un large quart nord-ouest du pays. Elle va se décaler sur le centre et la Nouvelle-Aquitaine. Ailleurs, c'est surtout nuageux, hormis sur le sud-est, toujours bien ensoleillé. Les températures restent stables, entre 13 et 17 degrés en général. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili et Alice Seyed à la technique.